Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle était intéressante notre émission d'hier sur le sens de notre vie. C'était donc un lundi philo à retrouver en replay sur RTL.fr. C'est la dernière semaine de 2020 que nous aborderons vendredi de façon très positive. Mais en attendant, place au sujet du jour sous le signe de l'espièglerie. Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme, écrivait Colette. Vous rappelez-vous vos bêtises, vos premières âneries, vos premières petites conneries? Vous souvenez-vous des remontrances que vous faisiez vos parents? Parvenez-vous à garder votre sérieux quand vos enfants n'en ratent pas une? On en parle aujourd'hui avec nos invités. On se rappelle aussi les premières bêtises de nos enfants et les nôtres, en compagnie de Béatrice Copper-Royer, que je remercie d'être là. Bonjour Béatrice.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue. Vous êtes psychologue clinicienne, cofondatrice de l'association e-enfance et auteur d'un blog. Créatrice d'un blog Famille sans dessus dessous, lemonde.fr. Gilles-Marie Vallée, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu sur RTL. Vous êtes pédopsychiatre, Gilles-Marie Vallée, auteur de Dites pas ci, dites pas ça, toutes les expressions à bannir pour une éducation positive aux éditions Hugo. Ah bah voilà, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire quand nos enfants font des bêtises, Béatrice Copper-Royer. Voilà une chose difficile.
Ouais, c'est sûr qu'il y a des bêtises qui font sourire, ouais. Mais il y a aussi des bêtises qui font peur.
C'est vrai.
Donc on n'a pas les mêmes réaction en fonction des moments, des circonstances. Voilà, c'est là où il faut hiérarchiser et gérer un peu ses émotions.
Il faut les remercier, Gilles-Marie Vallée, les enfants, pour certaines bêtises qu'ils font, parce que ça va nous faire un rendez-vous là plutôt joyeux, où certains de nos auditeurs vont se rappeler aussi les premières bêtises. Quelque part, on peut saluer l'espièglerie, non? Elle est nécessaire?
Elle est nécessaire parce qu'effectivement, elle correspond à des expériences, et bien souvent des expériences qui font grandir. Alors, il faut en sourire, et à la fois, pas forcément le montrer aux enfants pour pas non plus les encourager à multiplier les bêtises de façon un peu volontaire.
Mais l'espièglerie, Béatrice Copper-Royer, c'est un apprentissage de la vie aussi. Et c'est une façon de résister, je dirais.
C'est vrai que ce sont des expériences et qu'en fonction de la réaction des adultes, les enfants vont aussi se rendre compte de l'effet qu'ils font. Et c'est là où je suis assez d'accord. Il faut en rire, mais pas non plus trop, pour ne pas les enfermer dans des postures qui seraient beaucoup moins spontanées.
Mais pardon d'insister, Gilles-Marie Vallée, qu'est-ce qu'un enfant apprend en faisant une bêtise? Il apprend à transgresser. Bon, certes, peut-être l'autorité des parents, mais quelque part, c'est une façon d'être libre, c'est une façon de s'affranchir. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la bêtise, mais elles ont bien une fonction, ces bêtises.
Oui, alors quand je parle d'apprentissage, je pense surtout à ces bêtises que l'enfant ne va pas faire forcément pour transgresser ou pour ennuyer l'adulte, mais parce que poussé par un désir qu'on pourrait appeler épistémophilique ou par une pulsion de curiosité ou de découverte, il va faire quelque chose qui effectivement n'est pas forcément approprié. Et il va donc comprendre, par la réaction des parents, ce qui est pertinent et de ce qui ne l'est pas.
Bah, c'est apprendre l'apprentissage des limites, en fait.
Des limites, mais aussi de ce qui est pertinent et de ce qui ne l'est pas. Mais effectivement, c'est vrai que d'une façon générale, j'aime bien dire qu'une limite délimite à la fois ce qui est interdit, mais aussi ce qui est possible. C'est-à-dire que la limite est le mince trait entre le possible et l'impossible.
On va tout de suite proposer à Céline de nous rejoindre. Elle a 31 ans, elle est maman de jumeaux Léandre et Victor qui ont 2 ans et demi. Donc ça, c'est l'âge des bêtises. Bonjour Céline.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Ah voilà, voilà le sourire d'une maman en cette fin d'année, en période des enfants, qui a l'air d'avoir la pêche. Quand même, des jumeaux, c'est pas de la rigolade, hein, c'est pas de la tarte quand ils s'y mettent. J'imagine qu'ils font des bêtises à deux.
Voilà, surtout quand ils sont deux et surtout quand ils s'entraînent à faire des bêtises. Exactement, voilà, on s'amuse bien. Ouais.
Est-ce qu'ils ont le goût des bêtises, vos enfants?
Oh oui, surtout à cet âge-là.
Ouais, c'est
exactement.
Ça. C'est vrai que c'est un âge où ça commence. Là où vous avez raison, c'est qu'il doit y avoir de la surenchère. Est-ce qu'ils appréhendent les bêtises de la même façon?
Oui, vraiment, oui. Quand il y en a un qui s'y met, l'autre suit. Et quand l'autre a une très bonne idée, l'autre suit aussi. Donc oui, oui, ils s'entraînent là-dessus et ils sont bien complices sur les bêtises.
Est-ce que vous prenez un certain plaisir à les observer?
Bien sûr, moi je les observe beaucoup et j'aimerais être une petite souris dans leur chambre pour voir vraiment ce qu'ils font. Là, ils commencent à parler, ils commencent à jouer entre eux et du coup, ils commencent à se comprendre et à faire des bêtises ensemble, quoi, tout simplement.
J'ai une copine qui est maman de jumeaux et elle a installé une petite caméra infrarouge, vous savez, dans leur chambre. Et en fait, elle m'a montré des vidéos où vous voyez toujours, il y en a un qui passe par-dessus les barreaux de son lit, ouais, pour aller rejoindre l'autre dans le lit.
Exactement.
Pour faire des âneries. Et puis qui rigole sous cap, ils se cachent sous leur turbulette pour rigoler. Enfin, et c'est vrai que c'est un plaisir. Quelque part, c'est savoureux. Alors j'imagine, effectivement, en plus, quand ils sont deux, c'est vraiment un truc génial. Céline, est-ce qu'il y en a un qui entraîne plus l'autre? Parce que vous devez voir se dessiner des personnalités quand même.
Eh bien oui, au début, c'est vrai que c'était Léandre qui était meneur. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la situation se retourne et Victor mène plutôt son frère. C'est un peu lui maintenant le big boss. Et c'est lui le chef des bêtises.
Non, c'est hyper drôle parce qu'on a l'impression de parler d'un petit gang de malfaiteurs, vous savez. C'est vraiment le petit duo des bandits, quoi. On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous parler de leurs bêtises parce qu'on va voir si effectivement, non seulement bon, chez vous, ils les font en double, mais est-ce que ce sont des bêtises dites classiques? Parce que j'en ai reçu là sur notre page Facebook et par mail. Et parfois, on se dit que les enfants ont quand même beaucoup d'imagination. Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Alors, les enfants de Céline ont 2 ans et demi. Ils s'appellent Léandre et Victor. Céline est en ligne avec nous. Elle vit à Paris. Béatrice Copper-Royer est psychologue clinicienne. Ouais. Gilles-Marie Vallée est pédopsychiatre. Et aujourd'hui, on parle des bêtises de nos enfants. Karine nous écrit « Ma petite fille de 2 ans dessinait tranquillement dans le salon quand je suis allée chercher un verre d'eau. 15 secondes plus tard, son visage était bariolé. Difficile de ne pas rire devant sa tête et de lui expliquer de ne pas le faire tout en restant sérieuse. » C'est vrai, Céline, qu'on a parfois envie de se marrer. Surtout quand ils ont 2 ans et demi, on a envie de rire de leurs bêtises. Quelles sont celles auxquelles vous avez déjà eu droit avec vos enfants?
Oh là là, mais j'en ai beaucoup et malheureusement, je suis une maman qui rigole beaucoup aussi. Mes enfants me font rire. Ouais. Donc moi, quand j'arrive et que je vois mes enfants tatoués par les feutres, évidemment, je rigole.
J'ai eu ça aussi.
Voilà. Après, c'est rigolo une fois, mais quand après ils dessinent sur leur lit, là, c'est beaucoup moins drôle.
Mmh. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
On investit déjà premièrement dans des feutres à l'eau. Hein, on arrête les feutres qui ne partent pas. Mmh. Et puis ensuite, on les invite à réparer leurs bêtises, donc à nettoyer les feutres en expliquant qu'on ne peut pas dessiner sur autre chose qu'une feuille.
Et ça, ils l'entendent?
Ils l'entendent, oui, parce qu'ils répondent tous les deux. D'accord. Jusqu'à la prochaine fois, quoi.
Ouais, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre.
Exactement.
Ça veut dire que vous les intégrez, à l'équipe de nettoyage, je dirais. C'est-à-dire qu'ils réparent leurs bêtises.
C'est ça. On essaie vraiment de les initier à ça. Il faut qu'ils comprennent que ça, c'est une bêtise. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Donc, maman va t'aider. Regarde, je vais te donner une petite éponge ou une petite lingette. On va nettoyer ça. Quand tu vides ta bibliothèque, ils ont une bibliothèque une centaine de livres. Ils mettent tout dans leur lit. Leur petit kiff d'avant faire dodo, donc soit la sieste, soit le coucher. Donc, ils vident leur bibliothèque. Et on leur apprend le lendemain matin à ranger la bibliothèque, à mettre les livres. Ce livre-là à telle place, ce livre-là à telle place. Bon, je suis à côté, je les aide, papa aussi, mais on les initie à ça. Ouais.
Vous réussissez toujours à garder votre calme devant les bêtises de vos enfants?
Je vais pas vous mentir, non. Bien sûr, il y a des fois où je crie, mes voisins peuvent témoigner. Hein, ils connaissent les prénoms de mes enfants.
Ouais.
Surtout avec 2 enfants, non. Bien sûr, des fois je crie, je punis, ils connaissent le coin, ils savent que le coin c'est là.
Vous les punissez parfois?
Oui, ils vont au coin. Et je les menace aussi beaucoup.
C'est-à-dire?
Tu sais que maman connaît très bien le Père Noël.
D'accord.
Voilà. Attention.
Mais ils ont quand même eu leur cadeau à Noël.
Eh bien sûr. Évidemment. Parce que Papa Noël est quelqu'un de très gentil.
Voilà, parce que les enfants ont bien compris le message. C'est intéressant d'ailleurs, la punition est-elle une bonne réponse à la bêtise, nous demande David, Gilles-Marie Vallée.
Alors, c'est vrai que je ne suis pas fan du terme punition. Pour autant, dans les exemples que vient de nous donner votre auditrice, on sent bien qu'il y a finalement une réponse particulièrement adaptée que l'on peut considérer comme une sanction, mais qui est surtout une réponse adaptée, à savoir la réparation. C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant qui dessine sur un mur ou sur un endroit où ce n'est pas adapté, et bien on le fait nettoyer. Un enfant qui va casser un objet qui compte pour nous, on va lui demander de contribuer avec nous à le réparer. Donc, je trouve que c'est effectivement la punition un peu idéale. Après, effectivement, il y a des bêtises pour lesquelles il n'y a pas de réparation possible. Donc, c'est là où, finalement, une sanction un peu symbolique peut avoir effectivement un intérêt.
C'est quoi? C'est une privation?
Alors, ça peut passer par la privation, mais généralement, là aussi, je ne suis pas trop favorable. Surtout si elle porte sur des choses, je dirais, essentielles, fondamentales, comme le sport ou comme l'alimentation. Enfin, je pense vraiment que tout le monde a entendu. Enfin, les parents maintenant savent qu'il faut éviter de priver d'aliments, même un dessert.
Surtout.
En revanche,
priver de dessert, qu'est-ce que c'est bête, cette histoire?
Mais ça, c'était bête. C'était dans les années 50, pour nos parents. Depuis, Dolto est passé par là. Mais,
les années 70 aussi, hein, je vous rassure.
Hein. Non, c'est vrai. J'ai quelques souvenirs de mes parents qui n'avaient vu, donc pas lu Dolto, même s'ils avaient lu d'autres livres. En revanche, ce que je voulais aussi souligner, parce que j'ai entendu votre auditrice dire « Malheureusement, je rigole à certaines bêtises. » Or, justement, je pense que c'est important que les parents entendent qu'on a le droit de rigoler aux bêtises, parce que c'est aussi une façon d'arriver à... Ou en tout cas, ça traduit le fait qu'elle perçoit bien la gravité ou la légèreté d'une bêtise. Et effectivement, elle nous a d'ailleurs bien dit que pour certaines choses plus graves, elle va effectivement sanctionner. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est important de distinguer ce qui va être une expérience, c'est vrai qu'on a envie de jouer, et c'est aussi important, justement pour les choses plus graves, de pouvoir effectivement augmenter le ton.
Est-ce que vous avez déjà eu recours à la fessée, Céline? Qui est interdite en France aujourd'hui. Hein.
Qui est interdite en France, oui. Ça m'est déjà arrivé de leur donner une fessée, bien sûr.
D'accord. Vous, vous en avez reçu, vous, quand vous étiez petite?
J'ai pas le souvenir de quand j'étais vraiment enfant, mais je pense que oui.
Oui, vous avez 31 ans, c'était enfin, à cette époque-là. Enfin, moi, je sais que je m'en suis pris de belles aussi. Hein. Béatrice Copper-Royer, oui. Qu'est-ce que vous retenez du témoignage de Céline?
Eh ben, je trouve qu'elle a beaucoup de chance d'avoir des jumeaux, parce que c'est vrai que c'est assez fascinant. Et je trouve qu'elle a des réactions qui sont tout à fait adaptées quand elle utilise en fait la réparation pour leur expliquer que voilà, il y a des expériences qui ont des conséquences pas forcément formidables. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que la punition, après tout dépend s'il y a une idée de transgression aussi, il se met en danger. Parce que il y a quand même des bêtises qui mettent les enfants en danger. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut vraiment leur montrer qu'on est là pour les protéger. Alors, il y a des enfants qui sont... Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a des enfants qui sont plus bêtisiers que d'autres. Et je me dis que ces enfants-là sont particulièrement curieux et audacieux. Et peut-être aussi, alors qu'ils ont moins le sens des conséquences de ce qu'ils vont faire. Ils anticipent moins.
C'est clair. Vous savez quoi? On va en reparler dans un instant sur l'antenne d'RTL. Béatrice Copper-Royer, Gilles-Marie Vallée, vous restez avec nous. Céline, je vous remercie d'avoir témoigné sur cette antenne. Vous avez créé une petite gazette pour vos enfants. On retrouve ça donc sur lespetitesgazettes.fr, hein, c'est ça?
Exactement.
Eh bien, merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de Léandre et de Victor et belle fin d'année à l'écoute d'RTL.
Merci.
Je vous embrasse. Salut, Céline.
Au revoir. Attention.
14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Sébastien nous écrit « Ma fille de 4 ans a coupé sa frange toute seule. Comment vous dire ? On a d'abord crié de surprise, puis on a eu un fou rire. Je crois que ça l'a plus vexé que les cris. » Gilles-Marie Vallée, pourquoi nos enfants s'en prennent-ils parfois à eux-mêmes ? Vous savez, les petits tatouages qu'ils font au feutre, ils coupent leurs franges. C'est... Voilà, parfois, ils se font des trucs quand même. On se demande, c'est quoi ? C'est la découverte de leur corps ?
Exactement. Alors, c'est vrai que ça fait vraiment partie des punitions un peu classiques. Quoi. La frange qu'on coupe, le tatouage, effectivement, c'est-à-dire le bic sur le visage ou sur les bras. Alors parfois, on a la chance qu'il le fasse sur le chat ou le chien. Là encore, je pense qu'il y a quelque chose de l'expérience sur son corps, d'une forme de parentélisation, c'est-à-dire que après tout, les parents nous coupent bien les cheveux ou le coiffeur, donc pourquoi j'essaierais pas moi de le faire tout seul. Donc on est vraiment dans ce cadre des expériences, mais avec des résultats qui sont pas forcément adaptés ou pertinents. Et là encore, je pense que c'était intéressant de signer que la réaction des parents qui prennent ça avec humour peuvent tout à fait le faire, parce qu'effectivement, il n'y a pas de danger. Peut-être ce qui va permettre d'évaluer la gravité d'une bêtise, c'est le fait qu'elle porte atteinte, je dirais, à soit une valeur essentielle pour les parents, c'est-à-dire que le mensonge, il n'y a pas forcément de gravité, mais si on est très attaché, par exemple, à la sincérité, à la franchise, ben c'est vrai qu'un mensonge peut être considéré comme une bêtise grave. Voilà, c'est pour illustrer le fait que le danger, il doit être aussi envisagé, donc par rapport à l'enfant qui peut se mettre en danger, mais aussi par rapport à ce qui pourrait être nos valeurs éducatives, ou nos valeurs un peu... où là, il y a peut-être effectivement à faire respecter ce qui nous semble vraiment important.
Béatrice Copper-Royer, Armel nous écrit « À partir de quel âge les enfants sont-ils en mesure de comprendre ce qu'est véritablement une bêtise ?»
Je pense que l'âge, vraiment, il commence à être autonome, à avoir une autonomie motrice, il se déplace seul, etc. Ils font des expériences et ils comprennent très bien à la réaction de leurs parents si c'est bien ou si c'est mal. Alors ensuite, ils n'ont pas toute la dimension exacte, mais on arrive quand même assez vite. Un enfant, je pense, qui a 18 mois, on arrive très bien à lui montrer que s'il a... renverser sciemment son bol de lait par terre ou son biberon par terre, voilà, c'est une bêtise. Et il va vite le comprendre. Je pense qu'ils ont une capacité de compréhension qui est très vive et rapide.
Alors, Alexia est en ligne avec nous. Elle nous appelle de Vendée. Bonjour, Alexia.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL en cette fin d'année. Merci d'être avec
nous. Merci à vous.
Alors, vous, ils sont plus grands, vos enfants, hein, parce qu'on a ouvert le bal avec Léandre et Victor qui ont 2 ans et demi. Samuel a 12 ans et votre fils Soélie en a 10. Mais c'est encore l'âge d'autres bêtises, hein, en réalité.
C'est surtout Samuel qui fait beaucoup de bêtises.
Ouais.
Voilà, qui est très curieux et qui aime beaucoup faire des expériences.
Du genre.
Alors, il a voulu récemment, par exemple, nettoyer des Playmobil. Donc, dans des récipients, il a mélangé un dentifrice qui est vert fluo.
Ouais.
Avec du talc. Donc, en fait, le mélange et le fait que ça ait macéré pendant plusieurs heures, ça avait une odeur particulière.
Ah, tu m'étonnes.
Donc, voilà.
Ouais.
Il fait des bêtises, mais ça part d'une bonne intention. Il a voulu, par exemple, m'aider à nettoyer la salle de bain. Ouais. Et en fait, il m'a tartiné la salle de bain de savon à main.
D'accord.
Voilà. Il y a des bêtises aussi assez loufoques, comme clorier la tête du chat en rose fluo, par exemple.
Moi, ça me fait marrer, pardon, hein, c'est horrible. Non,
oui. Ben, c'est vrai que quand on voit le chat arriver en rose, c'est vrai qu'on a tendance à rigoler.
Oui, moi, j'imagine. Ouais.
Après, je vous ai entendu tout à l'heure parler du mensonge. Et on en a eu l'expérience récemment. Notre fils est rentré en fait un soir du collège. Et en fait, le matin, j'avais oublié de lui donner son chèque pour la cantine. Mmh. Et donc, il est rentré le soir, il n'était pas bien. Et il me dit, bravo, t'as pas donné le chèque, du coup, j'ai pas mangé ce midi. Alors,
super dur, la grosse culpa.
Du coup, on n'était pas bien. On a dit, mais est-ce que t'as pu boire un verre d'eau quand même, manger un petit quelque chose ou quoi? Il me dit, oui, j'ai un copain qui m'a apporté un petit bout de pain. Puis en fait, moi, le lendemain matin, je me suis rendu compte que la cantine nous avait facturé le repas malgré tout. Ah ouais. J'ai cru qu'il n'avait pas mangé et que le collège nous avait quand même facturé le repas. Et en fait, là, notre fils nous entend parler ça et il me dit, en fait, c'est pas vrai, c'était une blague.
Oui, c'est ça, classique. Bah ouais, voilà. La culpa, ça prend d'autres proportions.
Voilà, et ça prend des proportions parce que du coup, moi, j'ai envoyé un mail quand même où j'étais pas du tout contente au collège. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai dû faire un mail d'excuses. Et donc, j'ai écrit au collège en leur disant que voilà, s'ils estimaient que voulaient le punir ou lui donner une sanction par rapport à ça, que voilà, nous, on leur laissait un libre choix, quoi. Et que de notre côté, notre fils avait été puni à la maison.
Alors, quand je parle de punition,
privé de console et de jeux vidéo, tout ça, quoi.
Bon, alors, on va se retrouver dans un instant et voir comment on punit et comment on gère les ados, justement, avec vous, Alexia. Ouais. Avec Gilles-Marie Vallée, que l'on...
Janvier 2021. La Poste Mobile, c'est simple de faire des économies. Offre soumise à condition métropole, prix valable selon le modèle pour la souscription d'un forfait plus mobile 30 gigas à 19,99€ par mois ou 60 gigas à 29,99€ par mois avec engagement 24 mois. Détails sur lapostemobile.fr.
Merci Olivier Bois, rendez-vous 16h en direct sur RTL pour un prochain point sur l'information.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Et on reprend donc aujourd'hui notre conversation autour des bêtises de nos enfants. Ils nous en font des belles, évidemment. Alors parfois plus graves que d'autres. Alors il y a effectivement la fille de Sébastien qui se coupe la frange, mais il y a Olivier qui nous écrit que son fils de 3 ans a pris les billets dans son portefeuille et a fait un atelier découpage. Voilà, voilà. C'est sa façon à lui, effectivement, de terminer son message. Voilà, voilà. On laisse imaginer, effectivement, ce que sont devenus les billets que Olivier avait dans son portefeuille. Béatrice Copperwayer, Gilles-Marie Vallée, vous avez entendu Alexia. Béatrice Copperwayer, on ne dispute pas un ado de la même façon qu'un tout petit, évidemment. Les bêtises ne sont pas les mêmes, déjà.
Bien sûr que non. Moi, ce que je trouve surtout, c'est qu'il faut les faire réfléchir, les ados. Et moi, souvent, je conseille aux parents de leur faire écrire une page et demie, en fonction de leur âge, sur pourquoi ils n'auraient pas dû faire ça. Où se trouve la transgression, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'est pas content et qu'il y a un vrai sujet, quoi. Mmh. Et je trouve que le fait de les faire écrire, ça les fait réfléchir et notamment se mettre souvent à la place des autres, quoi. Parce que dans ces bêtises d'adolescents, il y a beaucoup d'impulsivité et peu de réflexion et surtout aucune anticipation de ce que ça va faire à l'autre. Mmh. Voilà. Et par exemple, là, dans le cas de cet adolescent qui ment par rapport à la cantine, au départ, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise intention, c'est pour faire enrager ses parents. Mais quand même, il n'a pas du tout anticipé qu'en disant ça, ses parents allaient peut-être justement en vouloir au collège et du coup que ça allait entraîner des réactions en chaîne qui n'allaient pas être forcément très adaptées.
Mais ça peut servir de leçon finalement.
Oui, absolument.
Gilles-Marie Vallée.
Oui, tout à fait. Alors, ça permet d'illustrer, pour poursuivre dans le sens de ce que disait Béatrice Couperoyer, qu'effectivement, chez l'enfant, le petit, on est davantage dans des bêtises qui sont un peu liées à l'expérience. Et j'ajouterais d'ailleurs, quand vous parliez de l'âge, je pense que ce qui va faire que l'enfant très tôt, dès 18 mois, va intégrer la notion de bêtise, c'est qu'elle va être associée à l'interdit. C'est-à-dire que l'enfant comprend que c'est une bêtise quand on lui dit non, à chaque fois qu'il recommence l'action qui est interdite. À chaque fois qu'il va approcher ses deux petits doigts de la prise, si on lui dit non, ou si on fronce les sourcils, il intègre qu'il est en train de faire une bêtise. Chez l'adolescent, effectivement, on est dans quelque chose de plus impulsif,
plus
lié à justement cette période particulière dans laquelle il est en plein chamboulement. Donc les valeurs qu'on lui a inculquées, il les a intégrées. Mais pour autant, il n'a pas effectivement cette anticipation des réactions de l'autre, cette pas forcément parler d'empathie, mais en tout cas, le fait de pouvoir imaginer ce que l'autre va pouvoir ressentir par rapport à ce qu'il va faire.
Et on ne punit pas un ado comme on punit un petit. J'imagine, Alexia, que Samuel allait au coin à 12 ans.
Ça lui passe par-dessus. Par rapport à cette histoire de cantine, en fait, ce qui lui a fait peur, c'est que... Il a envie de donner une bonne image au collège et du coup, il a eu peur en fait d'être puni par le collège et donc après, ben pour réparer en fait cette bêtise, il nous a rangé toute la maison.
Bon, donc, c'est voilà. Bien. Écoutez, profitons-en. Hein, dans un sens, c'est plutôt bien. Alors, on va vous remercier, Alexia, d'avoir participé à notre émission. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à l'écoute évidemment d'RTL. Le temps pour nous également d'appeler Pierre qui va nous rejoindre. Alors, on a des messages qui nous sont arrivés. Chloé nous écrit, mon fils a gravé un cœur. Bon, ça c'est super. Trop mignon, oui, mais sur ma voiture. Compliqué de le disputer quand l'intention de départ était bonne. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Béatrice Copper-Royer ?
Il a quel âge ?
J'en ai aucune idée, mais à mon avis, il n'a pas 15 ans. Vous voyez, mon fils doit être un petit bonhomme, quoi.
Oui, mais il n'a peut-être pas non plus 3 ans pour graver un cœur. Donc, je ne sais pas, tout est une question. Effectivement, il faut quand même lui montrer que là encore... c'est quand même pas adapté parce que une carrosserie de voiture c'est cher à faire réparer. Donc l'intention est gentille mais quand même il y a un manque de réflexion par derrière donc il faut essayer de le faire réfléchir et peut-être de réparer
Mais on peut dire merci mais voilà, faut pas faire ça sur la voiture de papa quoi.
Déjà avoir beaucoup de nerfs pour être capable de dire merci.
on voit bien quand même que c'est un cœur, Gilles-Marie Vallée, on voit bien que l'intention est bonne.
Oui, à la fois justement, je crois que alors c'est dommage qu'on n'a pas l'âge de l'enfant. Parce que il faut pas oublier que parfois, l'enfant peut avoir des intentions un peu ambivalentes. C'est-à-dire qu'à la fois, la voiture, c'est pas n'importe quoi. Il a pas fait le cœur dans le sable. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est en train d'interroger la maman à savoir si tu préfères ta voiture ou moi?
Ah ouais?
C'est peut-être important quand même de lui dire, tu seras toujours le cœur de ma vie, tu seras toujours là, mon petit garçon adoré. Mais la voiture, ça va me coûter une blinde et peut-être que l'argent que je vais utiliser pour refaire pas de ma voiture, je vais être obligé de... c'est un cadeau en moins. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de faire entendre la gravité de l'acte. Parce que, par amour, on ne peut pas tout faire. Et je pense que c'est aussi des messages qu'il faut inculquer, faire passer. Par amour, on ne peut pas tout faire.
On se retrouve dans un instant. Cette chanson que l'on retrouve sur l'album italien de Claudio Capeo, Pensate, un album qui vient de sortir. Il y revisite notamment cette chanson de Paolo Conte parmi d'autres tubes italiens, mais aussi de nouvelles chansons originales.
Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Rire devant une bêtise est-il une erreur ? Nous écrit Claire. On parle des bêtises de nos enfants jusqu'à 15h30. Pierre va nous rejoindre dans un instant, mais Pauline nous écrit qu'elle a vécu un classique, la farine partout dans la cuisine avec ma fille très contente d'elle et le chien aussi. Pourquoi est-ce que nos enfants salissent tout partout, Gilles-Marie Vallée ?
Alors, c'est vrai que là, je pense qu'il y a des moments... C'est rigolo, c'est des moments de régression pour les plus grands, pour les petits, c'est des moments de découverte. Et puis, il faut imaginer effectivement toute l'allégresse. On imagine le chien qui sautait dans tous les sens. Et c'est vrai que porté par une émotion, on est vite débordé, vite dépassé. Et a fortiori les enfants qui n'ont pas encore développé toute leur capacité à gérer les réactions émotionnelles. Donc, on peut tout à fait imaginer que porté par la joie, l'enthousiasme, de ce fait, elle oublie que après il va falloir tout nettoyer. Probablement même qu'elle est surprise quand elle voit effectivement les gros yeux ou voir les cris du papa ou de la maman, parce qu'effectivement, elle est encore dans son émotion, dans sa joie. Effectivement, elle peut être vraiment surprise.
Non, et puis, Béatrice Copper-Royer, c'est rigolo de mettre le bazar dans un ordre établi. C'est ça qui est excitant aussi pour les enfants, ça fait du bien.
Bien sûr, mais je suis assez d'accord qu'il commence quelque chose et après... Il y a une excitation qui vient. Je peux vous raconter une anecdote personnelle?
Au contraire, allez-y.
Eh bien, mon fils, quand il avait 4 ans, mon fils aîné, je l'avais laissé à la campagne avec un petit copain. C'était le 1er janvier et avec les parents, ce qui était complètement idiot, je ne le referai plus maintenant. Mais on déjeunait à part et on avait laissé les enfants devant un DVD dans une pièce où il y avait un feu de cheminée. Et en réalité, les enfants ont commencé à mettre un papier dans la cheminée et puis ils ont vu que ça crépitait et puis commencé à mettre un livre, puis deux livres, puis trois livres et puis ils se sont laissés embarquer par leur enthousiasme et le feu énorme qu'ils prenaient et tout d'un coup, mu par une intuition, je suis allée voir ce qu'ils faisaient et il y avait un énorme feu dans la cheminée et le plancher commençait à brûler, donc c'était une énorme bêtise, mais en réalité ces deux enfants étaient devenus fascinés par leur propre entreprise. Oui. Et c'est l'excitation qui faisait qu'ils ne s'arrêtaient pas, quoi.
Ouais, je comprends. Et là, c'est vraiment une bêtise dangereuse. Et parfois,
là,
c'est vrai que ça frôle.
C'est dangereux. C'est pour ça que les bêtises dangereuses, je connais.
Oui, bah, on connaît tous. Hein, et c'est sûr. Oui, mais à un moment donné, ils ont besoin de transgresser, de jouer avec des choses.
Oui, donc
si
vous voulez, c'est un truc qui démarre un peu fortuitement.
Oui, je comprends très bien. Et qui, effectivement, parfois, alors, effectivement, peut les fasciner et puis les dépasser lorsque cela devient trop dangereux. Pierre nous rejoint sur cette antenne. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour, Flavie.
Soyez le bienvenu, Pierre. Vous habitez dans l'Ariège. Vous êtes le papa d'un petit Nathéo qui a 17 mois. Ouh là là, c'est l'âge des découvertes, ça.
C'est l'âge des découvertes, oui, exactement.
Alors, qu'est-ce qu'il fait comme bêtise? Là, on parlait de la farine. Apparemment, lui, il adore nourrir les chats, c'est ça?
Alors, lui, oui, depuis qu'il a 12 mois qu'il sait marcher, il aime bien nous aider, en fait.
Oh, bah, c'est bien, c'est mignon.
Donc, on lui donne un maximum de responsabilités. Et quand il avait 12 mois, donc, il prenait le bol des croquettes. Et il l'a mené au chat pour le transvaser, en fait. Un jour, bon, c'est pas une grosse bêtise non plus, mais un jour, il a décidé de renverser tout le bol partout dans la cuisine.
D'accord.
Donc,
c'était
moi,
marrant.
Sur le moment, c'est marrant. On va dire, crier un peu fort en lui disant que c'était pas bien. Et du coup, ça l'a bloqué complètement, le petit. Il voulait plus approcher des croquettes du chat. Quand j'ai perdu le bol, il voulait plus le faire. Et ça a duré pendant quasiment 2 mois. Il voulait plus approcher les croquettes. Il nous aidait pour le reste, mais alors les croquettes, il voulait plus les voir.
Ça vous a travaillé, ça? Vous êtes, ça, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Mais on s'est rendu compte qu'en fait, la méthode je hurle ou j'engueule les enfants, ça fonctionnait pas, en fait.
Bah oui, je suis d'accord.
Alors, donc, on a pris le parti de lui expliquer les choses comme un adulte. De dire, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais si tu fais ça différemment, tu peux te faire mal, il peut y avoir des choses qui se passent mal. Donc en fait, il a la capacité de prendre la décision de faire la chose comme il veut ou de la faire correctement sans faire de bêtises. Voilà.
C'est bien ça de les responsabiliser très tôt. Moi, c'est ce que j'avais fait, Béatrice Copper-Royer. C'est une bonne technique, non?
Il faut effectivement leur laisser faire leurs expériences. Parce que si on fait tout à leur place, par exemple, je pense à l'enfant qui veut se reverser tout seul de l'eau dans son verre, alors qu'il est peut-être un tout petit peu jeune pour bien maîtriser son geste. Mais je trouve qu'il faut les laisser faire, quitte à ce qu'il y ait de l'eau un peu partout, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Et si on les empêche de faire ces expériences, ils risquent justement de faire des choses encore moins adaptées.
Oui, je comprends. Gilles-Marie Vallée.
Je voulais souligner quelque chose qu'on vient d'apprendre nous-mêmes, c'est que finalement, on apprend en permanence. C'est-à-dire que là, on vient de voir qu'effectivement, même parents, on apprend grâce à nos enfants. Et là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'effectivement, crier sur un enfant n'est pas une réaction fonctionnelle utile. En fait, crier sur un enfant, même si la bêtise est grave, ça a plus un effet de sidération. Et là, dans l'exemple qu'on voit, effectivement, l'enfant a bien senti qu'il y avait quelque chose de grave, mais il l'a associé aux croquettes et du coup, ça l'a effrayé. Mais justement, on a le droit d'apprendre, on ne peut pas réussir à être le parent idéal dès le premier coup. Et en revanche, c'est bien de réadapter ses approches éducatives au fur et à mesure que l'enfant grandit.
Ah ben justement, Pierre, il a une super idée. Et moi, je trouve ça génial. Vous allez nous raconter ça dans un instant, Pierre. À tout de suite.
Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes en compagnie de Pierre jusqu'à 15h30 et Béatrice Copper-Royer, Gilles-Marie Vallée. On parle des bêtises de nos enfants. Rire devant une bêtise est-il une erreur? Nous a demandé Claire. Oui, enfin, effectivement, on peut rire devant une bêtise, mais en tout cas, il faut toujours peut-être reprendre le dessus. En tout cas, ne pas cautionner les bêtises de nos enfants systématiquement. Pierre, en revanche, vous avez trouvé un espace pour votre petit garçon Nathéo, qui, évidemment, comme tous les petits garçons, on s'est dit un jour que ce serait quand même tellement plus rigolo de prendre le mur pour dessiner plutôt que la feuille. Et vous avez donc décidé de lui trouver un espace, de lui dédier un espace de créativité.
Voilà, c'est ça. En fait, comme tous les petits garçons, la feuille, c'est pas assez grand pour dessiner, et puis c'est pas marrant. Donc, il a décidé de dessiner un peu sur les murs avec le feutre. Et on lui a expliqué que c'était pas bien, mais on a quand même mis en place un système, un morceau de mur qu'on laisse blanc, en fait. Et on lui a dit, à cet endroit, tu peux faire ce que tu veux, dessiner avec des crayons, avec des feutres, de la peinture, mais que à cet endroit-là. Voilà. Et nous, de temps en temps, on repasse un petit coup de peinture par-dessus, puis il peut recommencer comme ça. Voilà.
En fait, vous êtes en train de faire c'est peut-être un futur Banksy, vous savez, le street artiste que personne ne connaît, mais peut-être que vous êtes en train de réveiller une vocation chez lui. Moi, je trouve ça super bien, quelque part, Béatrice Copper-Royer, parce que c'est une façon de canaliser les bêtises de Nathéo, mais sans pour autant le circonscrire, vous voyez, en lui donnant toujours un espace de créativité. Je trouve ça vraiment génial.
C'est vrai que c'est très intéressant et à reprendre. Et effectivement, il y a des enfants qui sont plus bêtisés, qui sont plus curieux et qui peut-être sont plus créatifs.
Bien
sûr. Donc, ils ont besoin
d'expérimenter et de faire ces expériences inédites et parfois pas toujours adaptées. Mais c'est vrai que la créativité, elle s'exprime par plein de façons différentes. Et que l'espace d'une feuille, c'est un espace étroit pour un enfant de 3 ans qui est emporté par son geste et gribouille, puisque c'est un peu l'âge du gribouillage, de façon très souvent tonique.
Gilles-Marie Vallée, c'est bien effectivement parfois aussi de leur dire « Bon, je comprends que tu aies envie de ça, je comprends que ça t'éclate, que ça te fasse du bien. C'est vrai que c'est beaucoup plus rigolo, mais voilà, on va faire les choses un peu différemment pour que tout le monde soit content. »
Et l'idée de proposer quelque chose de différent, ça illustre bien ce que j'évoquais de cette notion de limite qui, finalement, définit ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Dans l'exemple du mur, c'est vraiment ça. Alors, effectivement, tout le monde n'aura pas cette ouverture d'esprit, mais rien que de proposer peut-être une plus grande feuille, c'est quand même... Parce que ce qui va être aussi important, et c'est de comprendre que pour autant, les enfants n'ont pas tous les droits. Mais pour l'aider à développer une bonne gestion de sa frustration, c'est-à-dire pour l'aider à accepter justement qu'il n'a pas tous les droits et qu'il y a des choses qu'il faut qu'il respecte, c'est quand même toujours intéressant de proposer une alternative. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire ça, mais en revanche, tout ça, tu as le droit.
Ça, tu peux le faire. Oui, je comprends.
Voilà. Tu n'as pas le droit d'aller courir sur la rue, mais regarde l'espace du jardin comme il est grand ou l'espace du parc comme il est grand.
C'est offrir en fait une alternative qui leur permet peut-être de mieux comprendre et de mieux digérer la frustration.
Voilà.
Merci beaucoup à vous deux, Gilles-Marie Vallée, Béatrice Copper-Royer, d'avoir été notre invitée. Pierre, je vous souhaite une belle fin d'année à l'écoute d'RTL. Allez, on en a plus pour longtemps là pour 2020.
C'est
merci
ça.
À vous.
2021.
Voilà, exactement. Très bon réveillon à venir. Béatrice Copper-Royer, je conseille votre blog Famille sans dessus dessous sur lemonde.fr. Et puis Gilles-Marie Vallée, dites pas ci, dites pas ça, toutes les expressions à bannir pour une éducation positive aux éditions Hugo. Merci à vous deux, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Merci,
merci
à vous.
Au revoir, salut,
merci.
Au revoir.
On se retrouve nous demain dès 14h30 avec joie sur cette antenne. D'ici là, vous savez quoi faire. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, à demain.
RTL. Pour écouter RTL, au travail.
Sur la route.
Dans les transports,
dans votre jardin
et où que vous soyez.
Téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.